Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en 101.7. Et aussi, les émissions sont mises en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien Brault. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Brault, tu es ici pour nous parler d'une parution qui est sortie il y a pratiquement un an, et qui s'appelle Covid-22. Un titre peut-être prémonitoire. Et puis, on parlera aussi de la nouvelle édition qui vient de sortir. J'imagine toujours dans la même thématique.
Oui, c'est une série. Donc, le premier épisode est sorti il y a à peu près ou presque un an. Je ne sais plus, je n'ai pas compté en fait. Puis j'ai sorti le deuxième épisode l'automne dernier. Et là, cet hiver, je suis en train de travailler sur le troisième épisode qui devrait sortir dans un mois ou deux.
Dans ce premier numéro que j'ai sous les yeux, ça traite de quoi principalement? Il y a le titre, c'était évident, mais sur quoi vous mettez le doigt?
C'est 22, c'est-à-dire que ça a commencé un petit peu comme de la science-fiction, en fait, puisque j'ai commencé ça en 2020, T1, pardon. Donc je voulais un petit peu décaler le sujet pour pouvoir pas trop m'empêtrer dans les contraintes de l'actualité et du réel, quoi. Mais quand même en touchant au sujet du Covid. En le transposant sur un plan un petit peu surnaturel, un petit peu science-fictionnesque, voire surréaliste, pour pouvoir m'amuser. Je pourrais aussi parler des raisons qui m'ont fait commencer cette bande dessinée, des raisons très anecdotiques, mais qui sont assez importantes. C'est en fait une commande de mes parents qui, pendant le premier confinement, m'ont envoyé une lettre. Mes parents ne sont pas à Die, ils sont un petit peu plus loin dans le sud de la France. Ils m'ont envoyé une lettre en me demandant, sous forme presque contractuelle, de leur faire une petite bande dessinée drôle sur le Covid. J'ai l'habitude, c'était une sorte de tradition pour moi de faire des petites bandes dessinées pour leur anniversaire, en cadeau d'anniversaire, ou à ma sœur, ou pour les Noëls. C'était des petits cadeaux en famille que je faisais, 2-3 pages de gags très ludiques et pour faire rigoler la famille, quoi. Et ça leur plaisait beaucoup, ça les faisait rire et ils étaient un petit peu en manque, j'imagine, de rigoler sur ce thème. Et puis, ils voulaient aussi me donner un petit coup de main parce qu'ils ont vu que j'étais un peu désœuvré, que je n'avais plus ou trop donné de la tête. Donc, ils m'ont envoyé cette lettre sous forme de contrat. Dessine-nous ça. Et puis, il faut que ça sorte avant, il faut que ça soit fini avant que le vaccin soit inventé ou découvert. Donc c'était un petit peu le début de l'histoire et moi je me suis vraiment forcé pour répondre à cette commande. Ça me semblait pas du tout un thème drôle. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de décaler tout de suite le truc en me projetant dans l'année 2022 pour me permettre de vraiment transposer les choses, de pas être obligé de coller à l'actualité. Et puis, en fait, au lieu d'un petit gag de quelques pages pour faire rire mes parents, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de me remettre dans la bande dessinée puis de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une série au long cours, quelque chose sans fin prédéterminée, sans histoire définitive, quelque chose qui pourra me permettre de me replonger dans cette pratique. Voilà.
Et donc, le premier épisode qui s'intitulait « Une pour toutes, toutes pour une », avec l'écriture inclusive. Donc, il y a diverses facettes aussi, des bases qui constituent un peu aussi cette édition et celles qui suivent. C'est-à-dire les idées aussi actuellement de la parité et puis aussi de l'écriture inclusive. Tous ces facteurs-là vous inspirent aussi dans ce travail ?
Ouais, en fait, au départ, j'avais l'impression que d'aborder ce thème, ça allait forcément me mettre dans une position de commentateur de l'actualité un petit peu. Donc j'ai voulu intégrer justement des thèmes qui étaient très brûlants à ce moment-là et qui le sont par la force des choses toujours cette année et puis sans doute les années qui... pour les années à venir. Et donc, l'une de ces choses, c'était cette sorte de mode de l'écriture inclusive. Enfin, je dis ça, j'appelle ça une mode, pas pour en dire du mal, mais c'était quand même quelque chose qui... voilà, que j'avais envie d'inclure dans la forme. Et voilà, le titre du premier épisode, c'est devenu « Un pour tous, tous pour un » ou « Une pour toutes, toutes pour une ». C'est difficile à lire, c'est difficile à écrire, c'est difficile à penser, en fait. Et voilà, c'était une façon de plaisanter un petit peu sur l'absurdité purement formelle, en fait, cette écriture inclusive. Et je dis purement formelle parce que les intentions sont très bonnes, mais ça peut mener quand même formellement à des sortes d'absurdités, donc ce titre du premier épisode. J'ai aussi inclus des personnages, je pense que c'est important de le signaler parce que ça fait vraiment partie du cœur de l'histoire, enfin de la narration de Covid-22, j'ai inclus des personnages très connus, dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Didier Raoult, et puis justement par souci de parité, j'ai aussi voulu inclure leurs femmes, donc Melania Trump, la femme de Didier Raoult, j'ai pas vraiment trouvé d'informations. Qui vaille la peine sur elle. Donc, je l'ai un petit peu oublié. Je l'ai juste mentionné quand même dans l'histoire. Et puis, la femme de Emmanuel Macron, qui se retrouve, aussi bien elle, Brigitte, que Mélania Trump, retrouve des rôles principaux dans l'histoire, ainsi que voilà, leur mari respectif. Et je voulais, en fait... c'est quelque chose que j'avais jamais fait ou jamais pensé faire avant, d'inclure des personnages qui existent. Ça me semblait presque aussi un petit peu indécent, finalement, de m'emparer de personnages réels pour les inclure dans une narration qui m'appartenait complètement. Donc, c'était un petit peu comme faire un hold-up, quoi. Mais en fait, finalement, j'ai trouvé ça très drôle. Et justement, aussi très drôle de prendre... De m'inspirer du réel, enfin d'un petit peu prendre des personnages qui existent en essayant de pas trop me venger sur eux, parce que c'est pas forcément des gens que je tiens dans une haute estime, mais particulièrement Trump, et puis bon, Macron non plus d'ailleurs, mais y a pire et pire, quoi. Mais je voulais, en fait, le début de l'histoire commence avec Macron. Et dès les premières pages, je me suis rendu compte que si je me laissais aller à toutes sortes de ressentiments faciles ou de prises de position trop caricaturales, ça allait devenir très nul très vite et pas du tout constructif. Donc au lieu de ça, en fait, c'est un peu ce qui a fait démarrer vraiment mon goût pour cette histoire et pour ce projet, c'est au lieu de franchement me moquer de lui ou de le critiquer, je me suis dit, ben non, je vais en fait essayer de rentrer dans son intimité. Et je l'ai mis en face d'un miroir. Et donc, il y a une scène comme ça où il se regarde en face du miroir en l'air d'être intelligent, l'air de se demander où il en est, ce qu'il en est de cette actualité, de son rôle, etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pour Trump, par contre, j'ai fait moins de... j'ai pris moins de précautions et je me suis même offert le luxe de plus ou moins l'assassiner vers la 10e page, je crois. Mais ça reste un assassin. Enfin, on n'est pas sûr qu'il soit mort, donc il pourrait aussi renaître. C'est possible qu'il renaisse, d'ailleurs.
Des personnages d'actualité, hein, en somme, que vous les citiez auparavant. Quand j'ai parcouru ce recueil, cette bande dessinée, j'ai eu l'impression de voir des personnages qui sont déjà du passé, quelque part, entre Didier Raoult, Donald Trump. Est-ce que... comment dire ? Je ne sais pas comment traitent les deux autres numéros, à savoir s'il y a une continuité avec le premier.
Oui, c'est vraiment la suite. C'est, ouais.
D'accord, donc ces personnages sont récurrents à toutes les autres numéros.
Oui, alors, sauf que bon, techniquement, Trump il disparaît durant le premier épisode. Il disparaît quasiment, disons. Il y a une sorte... on ne sait pas exactement ce qu'il devient, mais en tout cas, il chute. Didier Raoult comme Macron gardent... ils sont encore là au deuxième et au troisième épisode. Leur rôle devient de moins en moins déterminant.
Il y a un personnage aussi qui ressemble à un héros de bande dessinée des années 70. Ça me fait penser un peu à Philippe Druyer. D'ailleurs, la bande dessinée, pour toi, cet amour de la bande dessinée a débuté à quelle période ?
Je ne suis plus amoureux de la bande dessinée. Bizarrement, j'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais enfant, jusqu'à la petite adolescence. Et j'en ai fait beaucoup à cet âge-là. En grandissant, j'ai pas réussi en fait à garder la pratique de la bande dessinée avec moi, avec la maturité, disons. Donc c'est resté pour moi quelque chose d'assez assez ludique. Quand j'étais enfant et jeune ado, il y avait des auteurs que j'admirais beaucoup. Et même aujourd'hui, il y a encore quelques BD auxquelles je peux repenser et que je trouve vraiment superbes. Mais je dois dire que depuis mes 20 ans, j'ai quasiment plus jamais lu de bande dessinée. Je ne me suis plus jamais intéressé à cette forme. C'est simplement que... c'est pour ça que c'était important de signaler que c'était une commande, de mes parents qui m'ont... un petit peu un redémarrage accidentel de cette pratique que je ne pensais plus sur laquelle je ne pensais plus travailler sérieusement. Mais finalement, pour moi, c'était la réalisation de ce que, si j'ai un petit peu de pratique en bande dessinée, une vieille pratique, puisque ça me vient quand même de l'enfance et que j'en ai plus fait depuis. Mais ça reste quand même un bagage. Une facilité pour le dessin. Je me suis dit, je vais essayer. Puis peut-être que je réussirai mieux avec cette forme-là que d'autres formes peut-être plus ambitieuses dans lesquelles je n'ai pas non plus vraiment abouti à quoi que ce soit. Et finalement, je suis très content d'avoir redémarré cette pratique. C'est très soulageant d'une certaine façon parce qu'en fait, c'est ludique. Il y a un aspect un petit peu puéril ou très ludique, voilà. Et c'est une façon tout à fait... j'arrive à me repassionner pour ça, mais avec une certaine légèreté, et je trouve ça, c'est bien, ça me soulage.
Les bandes dessinées telles qu'elles sont présentées sont constituées en taille réelle ? Sont constituées en taille réelle ou...
Oui. 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 Ce que je sais être une sorte d'exception, parce qu'en général, les dessinateurs font toujours plus grand. Et puis, ce qu'on lit, les éditions sont des réductions des originaux. Là, j'ai pas voulu me surcharger de travail ni de technique. Enfin voilà, j'ai voulu aller direct au format d'impression.
Le dessin est toujours un domaine de pratique dans ta vie?
Non plus. Enfin, ça faisait aussi
longtemps.
Non, parce longtemps.
Que ouais. Au-delà de la bande dessinée, j'aurais pu penser à être plutôt artiste plasticien quelque
oui,
part.
Oui, voilà. Ouais, j'avais aussi cette ambition. J'ai aussi eu cette ambition, disons, après justement, enfin, dans l'adolescence, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait de la peinture. Donc, j'ai étudié, le dessin, la peinture, etc.
Là, ça touche à un point sensible, ça me concerne également. Moi, étant aussi, ayant fréquenté l'école des Beaux-Arts et diplômé aussi, ça a mis un certain coup d'arrêt à ma propre création, en quelque sorte. Et par réflexion, des fois, je me dis, à quoi bon, dans l'époque où nous vivons, vouloir à tout prix créer des images, puisqu'on en est incurgité.
Ouais. Alors oui, c'est un grand sujet. C'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, il y a plusieurs façons d'essayer de sortir. Je sais pas. Moi aussi, les beaux-arts, c'est quelque chose c'est une expérience qui m'a beaucoup ouvert, beaucoup intéressé. Mais ça n'a pas non plus donné sur une carrière artistique, évidemment. Et je ne sais pas trop jusqu'à maintenant comment me positionner par rapport à le milieu de l'art contemporain, ces choses-là. La bande dessinée, comme je disais, c'était pour moi de m'y remettre maintenant. C'est un peu une sorte de façon de redescendre vers, je dirais presque un pragmatisme sur... qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai à ce moment-là de ma vie. Et je ne me sens pas du tout... En fait, ce que j'ai, je crois, c'est un petit peu une facilité pour le dessin. Et puis, ce bagage d'avoir grandi avec la bande dessinée, d'avoir pensé en termes de bande dessinée quand j'étais petit et jusqu'à mes 18-19 ans, d'en avoir beaucoup fait. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est peut-être quelque chose que je sais faire mieux de l'art, de la sculpture, de la peinture ou même de la musique, parce que j'ai passé par beaucoup de pratiques différentes et toutes ont été très plus intéressantes les unes que les autres, mais elles n'ont pas forcément abouti à quoi que ce soit de très concret. Même cette bande dessinée, je ne pense pas non plus qu'elle aboutisse à plus de reconnaissance ou de choses, de retombées concrètes. Mais en tout cas, c'est une pratique qui maintenant me... Je n'ai pas l'impression de viser plus haut que mes capacités. J'arrive à cultiver en fait mon intérêt pour une pratique créative de nouveau et de façon rafraîchie et rafraîchissante.
Un retour aux sources en quelque sorte, puisque c'était une passion de jeunesse.
Ouais.
C'est un peu comme moi, il y a toujours ce désir de peindre que je pratiquais avant de rentrer dans cette école. Et donc, les autres éditions sont toujours du même aspect, c'est-à-dire une épuration en noir sur blanc.
Oui, noir et blanc. Enfin, le noir et blanc, c'est j'ai aussi le goût du noir et blanc, je dirais. C'est une sorte de simplicité... que j'aime bien je trouve ça intéressant de se suffire de ça trop de moyens trop d'options je trouve ça plutôt paralysant donc n'avoir que du noir et du blanc ça oblige un peu à résoudre les problèmes de façon simple et radicale donc ça me plaît.
Un dessin tout en contraste, donc. Les situations, quand on feuillette ces pages, on a l'impression, peut-être pas toutes les pages, mais toutes les deux ou trois pages, de se retrouver dans un rêve.
Ouais.
C'est-à-dire une mise en situation sans savoir comment on y soit arrivé.
Oui, exactement. Alors ça, oui, c'est normal, je dirais, parce que ça tient au fait que c'est pour moi une sorte de rêve. C'est-à-dire que donc j'ai pas de scénario, c'est de l'improvisation. Et j'essaye de... Donc, ça fait comme une sorte de rêve éveillé. Simplement, c'est quand même beaucoup plus... avec le recul et le pragmatisme qui fait que ce rêve éveillé se construit petit à petit et de plus en plus au fur et à mesure que j'avance en une histoire construite et cohérente. Mais le processus est un processus d'improvisation. Et en fait, c'est l'intérêt essentiel, je dirais, qui motive cette pratique pour moi. C'est l'idée de l'aventure, de garder tout ouvert et tout possible au fur et à mesure, enfin dans le processus de création, quoi. Donc la narration, elle est... un petit peu comme celle des rêves où on découvre des situations comme moi je les découvre en les dessinant et j'essaye de trouver des débouchés, des solutions, des liens entre ces différentes situations et j'essaye de construire quelque chose de cohérent mais un petit peu après coup ou au fur et à mesure.
Tout comme l'appétit, est-ce que c'est en pratiquant que l'inspiration vient aussi? Là, vous êtes, tu es au troisième numéro. Est-ce que tu envisages d'en produire encore une grande série?
Alors, je ne sais pas. Donc, ouais, je suis au troisième épisode. Donc, maintenant, en total, ça fait, j'en suis à une soixantaine de pages. Si je compte toutes les pages des trois épisodes, quoi. Et puis, je sais déjà, vu la quantité de... Enfin, vu le poids que toute la narration passée m'impose, si je veux clore la chose de façon cohérente, je sais que je ne vais pas pouvoir finir au troisième épisode. Donc, j'imagine qu'il y aura quatre épisodes, mais je ne sais pas du tout s'il y en aura plus. Je dirais voilà, au moins 4, peut-être plus, mais ça va dépendre aussi de ce qui, comment cette bande dessinée est reçue par les gens qui tombent dessus, qui la lisent ou qui l'achètent. Et évidemment, plus j'ai de retours positifs ou constructifs, enfin, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de partager, vu que c'est un petit peu ma façon de partager en ce moment, c'est cette bande dessinée. C'est ce qui motive aussi un petit peu quasiment mes relations sociales. Donc j'aime me présenter en tant que tiens, voilà, j'ai fait cette bande dessinée, tu la lis, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est un peu mon approche en ce moment. Donc c'est quand même quelque chose à partager. Et puis ben, si je vois que ça retombe comme un soufflet à plat, ben, j'abandonnerai sans doute assez vite. Mais pour l'instant, j'ai des bons retours et je reste très motivé. Donc on verra combien il y aura d'épisodes, mais ça ne dépend pas que de moi, disons. Mais je ne peux pas répondre pour l'instant.
D'ailleurs, c'est un travail de collaboration avec d'éventuels lecteurs aussi, puisque au dos de la couverture, tu es prêt à recevoir des idées, des suggestions ou des commentaires sur cette première parution. Est-ce que justement, il y a eu des propositions d'idées
Alors,
faites
Non, effectivement, j'ai écrit ça au dos du premier épisode. Je ne l'ai pas écrit au dos du deuxième épisode parce que... Je l'ai écrit parce que pour deux raisons, bah justement parce que j'ai envie de partager. Donc oui, je voulais et je pense que je le veux encore, mais ça devient plus compliqué maintenant. Rester ouvert aux idées des autres. Mais en fait, j'en ai pas reçu. J'ai eu des retours, mais j'ai pas vraiment reçu d'idées constructives par rapport au scénario. Mais c'est vrai que c'était possible parce que justement, c'est improvisé. Ensuite, je me suis maintenant tellement investi dans cette histoire que j'aurais du mal, je pense, à à recevoir des idées de l'extérieur concernant la suite. À moins que, enfin voilà, en fait j'en sais rien du tout. Ça reste toujours effectivement complètement ouvert. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je me pose encore des questions à la 60e page sur qu'est-ce qui va se passer à la 61e page. Donc effectivement, ça reste toujours ouvert et c'est une possibilité. Mais jusqu'à présent, c'est resté une possibilité théorique parce que je n'ai pas vraiment eu de propositions concrètes.
Alors l'actualité t'inspire hein, pour ce travail. Quelle serait-elle si cessait cette apparition de Covid-22 après le quatrième numéro? Est-ce qu'il y a déjà des idées sur d'autres sujets?
J'ai une sorte d'idée qui pourrait remplacer, enfin qui pourrait prendre la suite de ça si ça se termine bientôt. Et ce serait, l'idée, elle se limite presque juste à un thème ou un titre. Ce serait une série qui s'appellerait Les aventures de la civilisation occidentale. Et c'est juste le titre lui-même me fait un petit peu rire. Et pensant que, en fait, c'est la civilisation occidentale, dans le titre, je pense ça comme le nom de quelqu'un. La civilisation occidentale, elle serait personnifiée par un personnage, par quelqu'un, et ce serait ses aventures dans le monde. C'est une idée comme ça. J'y réfléchis de temps en temps le soir avant de me coucher, si je suis fatigué de réfléchir à Covid-22.
L'actualité aussi. Qu'on connaît tous, marque certainement ton travail. Et quelle est ta part de ressenti sur ce que tu proposes en bande dessinée?
Par rapport au Covid, par rapport à l'actualité,
par rapport à l'actualité en général, ouais. Hein, parce que bon, Donald Trump est cité, on connaît un peu tout ce qui s'est fait autour de lui et tout ce qu'il a fait ou défait. Je voulais savoir, il y a donc certainement une captation, une émotion face à des tels personnages.
Oui, bien sûr. Mais en fait, j'essaye de pas. J'ai pas du tout envie de dire ce que je pense des choses de façon évidente. J'ai pas envie j'ai pas envie d'être identifiable comme appartenant à tel camp ou tel autre. Je pense que ces sortes de ce positionnement, politique ou autre par rapport à l'actualité. Il devrait transparaître de façon plus diffuse dans la forme et dans l'esprit général des choses, mais j'essaye de résister à participer à cette sorte de pseudo-débat totalement clivant où tout le monde commence à s'engueuler, à prendre des positions radicales, particulièrement par rapport au Covid, évidemment. Même par rapport à Trump, ça ne m'empêche pas de penser des choses assez radicales sur Trump, je n'éprouve aucun besoin de les dire directement dans cette bande dessinée. Donc j'essaye de survoler un petit peu ça. De transposer ça dans un avenir proche, dans un univers aussi un petit peu surréaliste. Le message, il serait plutôt implicite à travers l'esprit général de la chose, de l'entreprise, et puis aussi cet esprit d'improvisation, d'aventure, de prise de risque. Qui est un petit peu ma méthode de travail. C'est plutôt ça pour moi qui est porteur d'un message. C'est pas des évidences, quoi.
Je vais dans l'idée aussi à savoir si la parole de l'individu était systématiquement politisée de nos jours. Qu'une simple personne puisse dire quelque chose sans devoir être politisée dans ses propos ou dans ce qu'elle est.
Je sais, oui, enfin bon, c'est ce qu'on a tendance à... Je ne sais pas, ouais, on a l'impression qu'on est de plus en plus surveillé sur des détails d'expression et peut-être justement là, ou des détails formels surveillés quant à... enfin, justement, c'est un petit peu un des, une des caractéristiques de cette écriture inclusive, par exemple, qui est bien intentionnée, et, mais qui deviendrait, par exemple, tout à fait inacceptable si elle était imposée. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de bonnes intentions en ce moment qui voilà, se transforment en horreur parce qu'elles sont un petit peu... parce qu'elles sont imposées. Voilà. Et c'est dans les deux camps, dans les deux sens, dans les deux directions. Voilà, je me suis amusé à faire des titres, enfin, à utiliser l'écriture inclusive au début du premier épisode pour mettre ça un petit peu en dérision, mais on peut aussi mettre en dérision c'est juste, là, je l'ai juste mis en dérision, mais par exemple, d'autres, je pense à d'autres obligations qui sont moins risibles, comme voilà, pour moi, le pass vaccinal, par exemple, qui est un petit peu, même pas une obligation, mais une obligation déguisée. C'est des choses qui me hérissent. Qui part d'une bonne intention, ou en tout cas qui est présentée comme telle. Et je sais pas comment sortir de dialogue sans suite en fait entre les pros et les contre dans ces domaines. J'ai l'impression que on n'arrive pas à vraiment communiquer. Je sais pas. Je m'égare là.
On va aborder l'aspect simple de ce cahier, hein, puisque ça se présente sous la forme d'un cahier, édité et publié par tes propres soins.
Oui, alors c'est auto-édité, ça se présente comme un fanzine. Hein, c'est des photocopies noir et blanc que j'ai fait chez Heraldi, donc c'est quand même de la bonne, du bon noir, bien noir. C'est de la bonne qualité de photocopie, mais ça reste voilà, un format... très amateur, c'est pas du tout c'est pas de la belle édition parce que moi ce qui m'intéresse c'est avant tout le contenu, donc la narration, le dessin lui-même, tant qu'il est bien visible, bien noir et bien blanc, ça marche. Donc j'ai auto-édité les deux premiers épisodes, je vais aussi auto-éditer le troisième. Et d'ailleurs, les deux premiers épisodes sont disponibles hein, à la librairie Mosaïque, a dit, qui ont été très sympas de me laisser leur soumettre ça. Elles sont visibles avec les autres bandes dessinées dans leur rayon. Et j'essaye juste de faire ce que je peux avec ce que j'ai, en fait, hein, et de diffuser cette bande dessinée par mes propres moyens. Et puis on verra, adviendra ce qui adviendra plus tard.
Et on te souhaite une bonne continuation, en tout cas. Et pour justement, donc il y a des numéros qui sont disponibles à la librairie Mosaïque. Y a-t-il d'autres moyens aussi pour les voir ?
Moi, je me suis baladé pas mal l'été dernier dans les marchés, le marché de Die, et puis différents marchés du coin. Donc, j'ai vendu cette BD de main à main, disons. Hein. Et c'est aussi sans doute quelque chose que je recommencerai de faire quand le troisième épisode sortira, parce que c'est toujours des occasions pour moi. Quand j'ai terminé un épisode, je suis assez excité, content de partager ça. Donc, ça me donne assez de courage pour m'exposer et essayer de vendre la chose en main propre, quoi, dans les marchés et autres. Mais sinon, si vous vous procurez un épisode ou un autre, il y a mon contact au dos. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a l'épisode, bah, vous pouvez simplement m'envoyer un email, me faire une commande. J'ai déjà fait ça, en fait, pour des amis. J'ai même envoyé des épisodes pour Noël en cadeau à des gens dont ils m'ont donné l'adresse. Et je me suis chargé moi-même de faire le shipping, enfin l'envoi, quoi. Donc voilà, on peut me contacter par mail.
J'indique l'adresse.
Oui.
Alors, sebdedi, tout attaché, @gmail.com. Je mettrai les coordonnées aussi sur la page de l'émission, sur le site Erdiwa. Et bien, Sébastien Bro, je te remercie de nous avoir donné un peu de ton temps pour nous parler donc de Covid-22, cette série de bandes dessinées disponible aussi à la librairie Mosaïque. Je te souhaite une bonne fin de soirée.
Ouais, merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à toi. Au revoir.
C'est war, ideological war, and it's a global war, technological war. Yeah. Hey, missile flying through the sky, war that started from Malai. British and them not tell the truth. Them want some new recruit, 10,000 fighter jets, 8,000 warships. Still can't stop them from go down and at the war quick. War. Ideological war, yeah, and it's a chemical war, and it's a global war, yeah. War. Feed the now. You want to destroy another man country. War. A wicked heart, cruel heart. You have no mercy. But David shall slew Goliath, even in the 21st century. So Jadan, just Jadan, yeah. Confirm your victory. War, ideological war, yeah. And it's a chemical war, and it's a global war, yeah. A long time the peacemakers I tell them say, them for living in peace and unity. No, them never pay them no mind. Them still go on with them brutality. And now them beg and them bow, them ball and them plea. Them still can't get a ceasefire. Throw in a towel now, put your hand by your head. Yeah. Surrender in a this ya war. Ideological war. Yeah, and it's a chemical war. And it's a global war, yeah. I tell them, say, this world is big enough for all of us. And them still going around fighting and fight. I sip on like rain, gunshot like sand grain. Virus, living at the general brain. In my house of parliament, them get insane. Them want 9 trillion for buy more war plane. War, ideological war, yeah. And it's a chemical war, and it's a global war, yeah. One man say him army well equipped. Another man say him army super fit. A next man say him have hypersonic. Fi sink warship deeper than Titanic. Next man say attack, no attack. Make sure say no defense system a work. Because if I press this red button, every city gone.